Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la recrudescence des violences en République centrafricaine, c'est notre dossier. Coup de projecteur aussi sur la suite du débat annuel de l'Assemblée Générale. Nous reviendrons sur les interventions des présidents du Rwanda, du Mali et du Sénégal. Et puis nous ferons le point sur deux réunions de haut niveau, celle sur le terrorisme et celle sur le maintien de la paix. C'est le président du Rwanda qui a entamé ce mardi le deuxième jour du débat général de l'Assemblée générale. Dans son allocution, Paul Kagame a fait observer que la croissance et le progrès donnent jour à de nouveaux défis pour les pays en développement, notamment en termes de migration interne, de protection de l'environnement et de bonne gouvernance. Il a aussi parlé de la légitimité politique dans le cadre des nouveaux objectifs de développement durable. On l'écoute.
La coopération est le seul moyen d'aller de l'avant. Et pourtant, le nouveau consensus autour du développement durable demeure incomplet car elle ne comporte pas une définition commune de la légitimité politique qui est nécessaire pour appuyer cet ordre international. Les hiérarchies morales et les préjudices persistent encore, contribuant à la mauvaise gestion du changement politique et corrodant la confiance dont dépend une coopération multilatérale effective. La légitimité politique n'est pas une abstraction juridique. C'est une réalité objective qui peut se mesurer en termes de progrès réalisés vers ces objectifs mondiaux et d'indicateurs de l'opinion publique.
Parmi les présidents francophones qui devaient intervenir plus tard aujourd'hui figurent notamment Paul Biya pour le Cameroun et ses homologues des Seychelles et de la Mauritanie. Lundi après-midi, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle apporte un soutien technique et financier à la mise en œuvre de l'accord de paix intermalien parachevé en juin 2015. Ibrahim Boubacar Keïta.
Cet accord issu du processus d'Alger a été laborieux, mais il est conclu. Et cet accord, sans être la panacée, sans résoudre tous les problèmes, nous offre un cadre dans lequel nous pouvons évoluer vers une paix durable et soutenable. Un accord de paix consensuel qui sert de cadre général pour la résolution du conflit durable de toutes les parties du Mali, dans toutes les dimensions, est une première dans l'histoire du Mali. Cela est un nouveau pacte social au Mali, entre fils du Mali, un nouvel engagement collectif pour la paix et la concorde dans ce pays. Cet accord vient sceller la retrouvaille entre nous. Il est le résultat de la volonté de l'ensemble des parties maliennes et de l'engagement de tous pour que nous soyons aujourd'hui dans la phase où nous sommes de mise en application de cet accord de paix.
Autre francophone à prendre la parole lors du premier jour du débat général, le président du Sénégal, Macky Sall, a souligné que 70 ans après la création de l'ONU, sa mission principale, préserver du fléau de la guerre, était plus présente et plus complexe que jamais. Il a émis le souhait de voir la conférence de Paris, la COP21, couronnée de succès à travers des engagements contraignants pour contenir le réchauffement climatique et mobiliser des ressources financières et technologiques écologiquement rationnelles. Il a aussi appelé à élargir la composition du Conseil de sécurité, à réformer la gouvernance économique et financière mondiale, mais aussi à lutter contre les flux financiers illicites qui minent le continent africain.
Il y a du sens à lutter de manière plus vigoureuse contre les flux financiers illicites qui font perdre à l'Afrique entre 30 et 60 milliards de dollars par an, soit un préjudice supérieur au montant de l'aide publique au développement. Si l'Afrique percevait la juste rémunération de ses ressources. Et si elle recouvrait seulement l'équivalent de 17% de ses avoirs frauduleusement placés à l'étranger, elle pourrait solder la totalité de sa dette et financer par elle-même ses besoins de développement.
Et puis en marge du débat général, les dirigeants ont aussi participé ce mardi à un sommet consacré à la lutte contre l'EIIL et l'extrémisme violent. À cette occasion, le secrétaire général Ban Ki-moon a souligné que des groupes comme Daesh et Boko Haram posent une menace directe à la sécurité internationale et que cette menace ne fait que croître, les dernières données indiquant une augmentation de 70% du nombre de combattants terroristes étrangers. De son côté, David Cameron, le Premier ministre du Royaume-Uni, a longuement insisté sur l'importance de bâtir des sociétés plus intégrée et d'éliminer les facteurs qui poussent certaines personnes à adopter une vision extrémiste du monde. Au préalable, le roi Abdallah II de Jordanie a parlé de la responsabilité des pays musulmans. On l'écoute.
C'est notre combat avant tout. Les nations musulmanes doivent être à la tête de ce combat afin de protéger et de montrer la véritable nature de notre religion. Alors que les combats sont menés sur le terrain par les populations les plus touchées, cette guerre ne pourra être gagnée que sur le plan idéologique. Un autre défi que nous devons affronter avec plus d'efficacité, c'est le champ de bataille dans le cyberespace. Nous savons que Daesh renfloue ses rangs en attirant et en recrutant des membres potentiels par l'intermédiaire des réseaux sociaux et qu'il est encore capable de financer le voyage de nouvelles recrues vers la Syrie et l'Irak. Qui plus est, le monde ne doit pas passer sous silence la violation du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, car cela ne fera qu'habiliter ceux qui cherchent à lancer une guerre de religion.
Et puis au moins 8050 personnes sont mortes depuis le début du conflit en Ukraine en avril 2014. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce mardi à Genève, le sous-secrétaire général pour les droits de l'homme a rappelé que plus d'1,5 million de personnes sont inscrites auprès du gouvernement ukrainien comme réfugiées. Cela donne, selon Ivan Simonovitch, une indication de l'ampleur des souffrances humaines induites par ce conflit. Alpha Diallo.
Les Ukrainiens continuent de payer un lourd tribut dans ce conflit dans l'est du pays. 7 mois après le cessez-le-feu du 15 février dernier, près de 196 civils ont été tués. Kiev et les groupes séparatistes sont accusés d'être responsables des bombardements aveugles sur les populations civiles. Malgré ces pertes en vies humaines, le sous-secteur général de l'ONU pour les droits de l'homme note que le cessez-le-feu tient encore. Mais pour Ivan Simonovitch, l'urgence est d'assurer une forte présence humanitaire dans l'est de l'Ukraine où les premiers cas de poliomyélite ont été détectés.
Il semblerait que des combats actifs aient été remplacés par une politisation et une instrumentalisation de l'assistance humanitaire par les deux parties comme un nouvel outil de guerre.
Ivan Simonovitch redoute une dégradation de la situation dans ces territoires de l'Est ukrainien, surtout à l'approche de l'hiver. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, au moins 37 personnes ont été tuées dans les récentes violences à Bangui et 27 400 autres ont été déplacées en quelques jours dans la capitale centrafricaine. Cette nouvelle flambée inquiète le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui demande d'arrêter de toute urgence ce qui semble être une tentative délibérée pour faire dérailler le processus de paix en cours et les progrès importants réalisés en RCA au cours des 18 derniers mois. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Alors d'après ce que nous savons, la situation reste extrêmement tendue à Bangui ce matin et les premiers bilans font état de 37 morts au moins, hein, c'est un chiffre, une estimation basse, et de plus de 100 blessés dans ces heurts et ces représailles.
À l'origine de ces violences, c'est la mort d'un jeune taxi-moto musulman du quartier de PK5. Est-ce quelque part c'est encore les caractéristiques d'une violence interethnique?
Mais oui, ça en prend tout l'aspect en effet. D'ailleurs, se sont associés à ces heurts et ces représailles entre chrétiens et musulmans aussi des pillages de certains édifices religieux. Donc une insécurité globale et le retour à la peur qui n'avait jamais vraiment disparu et à la méfiance entre les communautés.
Et quand vous dites retour à la peur et cette méfiance qui n'a pas disparu, c'est-à-dire toujours, il y a toujours les ingrédients qui peuvent exploser d'un moment à l'autre?
Oui, en effet. D'ailleurs, le haut-commissaire qui s'était rendu début septembre en République centrafricaine l'avait fait observer. Il y a beaucoup de méfiance entre les communautés et il faut prendre des mesures très concrètes aussi pour mettre fin non seulement à la violence, mais aussi à l'impunité, parce que c'est cette impunité qui pousse les auteurs de violations et de meurtres à continuer à recourir à la violence et qui, en fait, ne fait que susciter davantage de tentations de recourir aux représailles. Il faut que la République centrafricaine sorte de ce cercle vicieux de violence et de représailles.
Pourtant, on avait l'impression que le pays était en train de se stabiliser. On allait directement vers des élections prévues en octobre.
C'est vrai que c'est une flambée de violence qui est surprenante, même si on voyait bien que la situation était loin d'être entièrement stabilisée. Mais sans doute que l'arrivée des élections n'a fait qu'aviver les tensions d'une certaine manière.
En parlant de lutte contre l'impunité, comment le haut-commissaire réagit par rapport à l'invasion de près de 500 prisonniers de la grande prison de Bangui en Garagba, prison qui accueille pas mal de personnes qui étaient des combattants armés?
En effet, c'est une très mauvaise nouvelle et tout simplement un revers pour l'état de droit. Mais on sait que la plupart de ces prisonniers, en tout cas une bonne partie, ont en effet pris part aux combats qui ont eu lieu, qui ont déchiré la Centrafrique. Et comme je le soulignais précédemment, cette lutte contre l'impunité est essentielle parce que c'est un problème chronique, récurrent en Centrafrique. Et le fait de voir ces 500 détenus courir dans les rues de Bangui est manifestement une très mauvaise nouvelle.
Quel a été le message du haut-commissaire lors de sa visite aux autorités de Bangui et aux responsables onusiens de la MINUSCA par rapport à cette lutte contre l'impunité?
Mais c'est que ça doit être une priorité absolue pour remettre la Centrafrique sur les voies de la paix, de la réconciliation, du développement. Il faut absolument que les personnes qui sont responsables de meurtres, de violations graves des droits de l'homme, que ces gens répondent de leurs crimes. Et il ne faut pas laisser cette tentative délibérée de faire dérailler le processus de paix aller de l'avant. Il faut au contraire capitaliser sur les progrès qui ont été réalisés au cours des 18 derniers mois. Pour continuer à avancer, il faut que les élections aient lieu et il faut effectivement que l'ordre règne à nouveau dans les rues de Bangui et dans le reste du pays d'ailleurs.
On sait que le Conseil des droits de l'homme va examiner le rapport du rapporteur spécial sur la Centrafrique le mercredi. Et il y aura aussi un sommet de haut niveau sur la Centrafrique à New York jeudi à l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce quelque part, c'est pas une façon de rappeler que la Centrafrique ne doit pas être oubliée et quel est votre message d'apaisement?
Alors en effet, c'est vrai qu'on voit une succession de conflits, de mauvaises nouvelles sur la scène internationale et il ne faut pas laisser la Centrafrique tomber dans les oubliettes parce qu'on voit bien que la violence n'est pas loin, qu'elle peut ressurgir à tout moment et que les conditions sont encore loin d'être réunies pour retourner vers les voies de la paix et du développement. Or, cette opportunité, cette réunion de haut niveau qui se tient à New York, là en marge de l'Assemblée générale, est vraiment une opportunité pour la communauté internationale de montrer son engagement, de fournir le soutien qui est nécessaire, que ce soit en termes financiers, techniques ou politiques, pour que les résultats, le forum de Bangui soit mis en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas juste d'identifier les étapes à réaliser pour amener la Centrafrique vers la paix, il faut aussi mettre le soutien à disposition des autorités de la transition pour désarmer les milices, pour mettre en place la justice transitionnelle et pour faire avancer le pays vers la voie de la prospérité et de la paix.
En marge du débat général, près de 55 chefs d'État, de gouvernement et autres dignitaires ont participé lundi après-midi à un sommet sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU, co-présidé par le secrétaire général Ban Ki-moon et le président américain Barack Obama. Objectif, solliciter l'appui des États à une époque où les missions de maintien de la paix sont mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Pour en savoir plus sur les enjeux de cette réunion, Christina Silvero a tendu son micro au colonel Wiyao Bali. Il est conseiller militaire de la mission permanente du Togo.
C'est une réunion qui porte sur la sécurité et les pays contributeurs de troupes. L'objectif, c'est pour chaque pays de participer au profit des Nations Unies pour la lutte de la stabilité et la paix et la sécurisation à travers le monde. Donc, aller également au secours des pays qui sont en difficulté. Vous savez qu'actuellement, il y a des turbulences presque partout. Et nous, Africains, on est plus que concernés, surtout avec la montée en puissance de Boko Haram, et puis sans oublier le Daesh en Syrie et autres. Voilà, donc pour nous, c'est suffisamment important pour que nous puissions nous ressourcer ici. Nous venons nous ressourcer à cette réunion qui est très importante pour nous. Et surtout, en tant que pays contributeur de troupes, mon pays, il est important pour moi de venir m'enquérir également d'autres ressources pour pouvoir mieux m'organiser et mieux participer aux côtés des Nations Unies.
La question des abus sexuels et des poursuites des troupes.
Tout à fait, c'est un sujet très important qui nous laisse un peu perplexes. Alors, tout de suite, nous allons au secours de la population qui est déjà angoissée. Alors, en posant ces actes, moi je pense que ce sera un peu trop. Il faudrait que nous sensibilisions nos troupes pour que ces genres d'abus ne reviennent plus. La population déjà est en état de faiblesse lorsque vous arrivez. En tant que militaire, on arrive pour sauver une vie en péril. Mais un abus sexuel, je pense que c'est très 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 mal vu et il faudra que ces actes soient vraiment réprimés. La dernière fois d'ailleurs, à une réunion plénière, il y a le secrétaire général qui a dit qu'il prône la tolérance zéro. Et moi je suis d'accord avec lui. Parce que lorsque vous allez au secours de quelqu'un, il ne faut pas abuser de lui. Déjà que la femme, quand bien même on dit l'égalité entre la femme et l'homme, vous arrivez en tant que militaire, vous êtes dans une situation déjà de prévalence forte. Voilà. Et je pense qu'à cette réunion, il faudra qu'on débatte dessus pour que ces actes-là s'arrêtent définitivement et qu'on réprime non seulement les coupables, mais les pays également. Il faut qu'ils en payent la charge.
On s'attend à l'adoption d'une déclaration
Bon, mais je pense que c'est une étude qui a été faite. Des suggestions seront faites. Probablement, nous attendons aboutir à quelque chose de concret, que certaines décisions soient prises ou alors certaines approches de solutions soient prises pour pouvoir lancer le processus, même si à la longue, il y aura une déclaration.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.